Bonjour et bienvenue sur Radio Bouge de là. Aujourd'hui, le premier et peut-être dernier épisode audio de nos aventures. Intitulé « Montagne russe au canyon de Kolka », c'est une histoire qui parle de serpents, de chaleur et de dépassement de soi. Dans quelques instants, je reprendrai ma voix normale. En attendant, installez-vous confortablement pour un quart d'heure d'écoute. À bientôt sur Radio Bouge de là.
Pour arriver jusqu'au canyon de Kolka, c'est d'abord une histoire de bus. Celui que nous prenons met 6 heures de trajet, dont 1 heure pour sortir des tentacules embouteillés d'Arequipa. Après 4 heures de route dans des paysages désertiques, le bus marque une pause au village de Chivet. Charlotte en profite pour aller aux toilettes, mais commet une grave erreur. Entre-temps, le bus est rempli de personnes obligées de rester debout, serrées comme des sardines dans la partie centrale du bus. Je revois encore la petite tête déconfite de Charlotte émergeant de cette nouvelle foule à dépasser.
Nous sommes donc installés au fond du bus, et cela a son importance. Car lors du seul arrêt qu'il fait, j'en profite pour aller aux toilettes. Lorsque je reviens, je vois une longue file de Péruviens attendre devant le bus. Je demande alors à passer en disant que j'ai déjà ma place au fond, et je parviens à me faufiler à l'intérieur. Mais ça, c'était que l'entrée. Le plat de résistance, c'est de convaincre et puis d'enjamber les différentes personnes qui sont debout au milieu pour rejoindre ma place au fond. De loin, j'aperçois Rémi qui me jette un regard compatissant. Au final, à force de sourire et d'acrogyme, je parviens à le rejoindre. Mais c'en est trop d'efforts et je m'endors.
Nous mesurons ainsi notre chance d'être bien calés au fond du bus. Nous sommes sur le côté droit. Détail important, puisque cela nous permet d'admirer, depuis la fenêtre, le canyon qui commence à se dessiner en contrebas. Enfin, je dis nous, mais je suis comme souvent seul à contempler le paysage. Charlotte ayant rejoint son domaine privilégié pendant les transports, celui du sommeil.
Lorsqu'on arrive à Cabana Condé, on fait le tour des hôtels et devant les touristes qui errent comme nous, on ne prend pas trop le temps de négocier. Enfin si, on essaie dans un hôtel et le gars reste inflexible sur son prix. On ressort alors en pensant qu'il va nous rattraper par la manche. Pas du tout. Et on voit arriver vers nous 4 touristes. Donc on re-rentre la queue entre les jambes pour accepter son prix. Et oui, telle est la dure loi du marché à Cabana Condé.
Nous découvrons un village à l'aspect très rural. À 2-3 anomalies près, les touristes randonneurs présents pour le canyon. Les rues sont en terre, les femmes portent de longues robes blanches, les chiens aboient la nuit, les touristes rentrent dans leur hôtel. Ainsi va la vie à Cabana Condé. Nous mettons en place notre programme de marche avec un objectif, en voir le plus du canyon en 2 jours. Et oui, seulement 2 jours, car un impératif nous attend. Enfin, plutôt juste moi, puisque c'est le match de l'OM en finale de la Ligue d'Europa.
Donc Cabana Condé, le village de là où débute notre rando, qui pour aujourd'hui devrait nous mener jusqu'aux sources d'eau chaude de l'Awar, depuis le temps que je rêve de ce fameux jacuzzi. Au début du sentier, il y a le choix entre aller tout droit ou bifurquer sur la droite pour voir un mirador, enfin pour voir la vue depuis le mirador. Je n'ai pas le temps de prévenir Rémi qu'il voudrait mieux aller tout droit, car grosse erreur de sa part, il n'a pas vu qu'il y avait un garde forestier juste à côté du mirador. Et ce gars-là a un œil de lynx, il nous interpelle direct avant qu'on ait pu esquisser le moindre demi-tour. « Hey, mister !» Voilà, nous sommes piégés et condamnés à payer l'entrée du parc naturel. Il est à noter que pour nous, il est normal de payer l'entrée d'un parc naturel, mais celui-ci, enfin le tarif plutôt, est vraiment prohibitif pour ce qu'il y a à voir.
Nous passons à proximité d'un mirador qui, comme d'habitude, m'attire vers lui, afin que nous puissions jouir du paysage. Grosse erreur, mon cher. C'est à cet endroit que se trouve l'un des gardes du parc qui t'attend pour te faire payer l'entrée. Ce n'est pas du tout donné. 70 soles par personne, soit 7 almuerzos dans notre comparatif. Nous espérons désormais plus qu'une chose, être contrôlés à l'intérieur du parc. Car, on ne va pas vous mentir, nous avions l'intention de passer entre les mailles du filet. Mais maintenant que c'est fait...
Cela n'entache pas notre enthousiasme et nous commençons la descente de la mort, celle qui fait que vos rotules vous détestent. On y croise un couple de Français qui vend en sans service et qui fait de la pub pour Virginia, la tenancière de quelques chambres juste au-dessus des sources. Ils nous disent « Allez-y, la señora est adorable, ce n'est pas cher et surtout n'allez pas à l'autre et dites que vous êtes venu de notre part, vous verrez, ça lui fera plaisir. » Au final, 3 heures plus tard, nous sommes devant sa porte.
Nous abordons désormais la longue descente jusqu'en bas du canyon. 3 heures d'activité intense pour nos cuisses et nos genoux, quelques dérapages contrôlés et enfin la rivière qui coule au milieu, tout en bas. Particularité intéressante, il y a des geysers au bord de la rivière. J'en profite pour y aller avec ma petite fierté de randonneur d'avoir doublé les trois personnes qui étaient devant nous à la descente par le biais d'un raccourci que j'avais repéré avant. Oui, je suis comme un gamin parfois.
Quand on arrive, on enlève directement nos chaussures et indiquons à Virginia notre envie de grignoter. On rencontre deux autres Français, et oui, on est vraiment partout, qui ont passé leur matinée dans les sources d'eau chaude et qui s'avanceront ensuite vers San Juan, juste avant la grande montée. J'essaie alors de persuader Rémi que ce serait aussi une bonne option pour nous. Genre, on mange, on se prélasse 2 heures dans les sources, et nous connaissant, on en aura marre, donc autant continuer notre avancée, ce sera toujours ça de gagner par rapport au lendemain. Et comme ça, on ne passe pas toute l'après-midi à ne rien faire, et le matin, à prendre le bus. Au moins, on aura tout fait à pied. Incroyable! Rémi accepte ma proposition. Peut-être l'argument des doigts fripés, je ne sais pas.
Et oui, à ce moment-là, nous ne sommes pas d'accord avec Charlotte. Moi, je suis pour rester ici, profiter des sources d'eau chaude et repartir le lendemain. Nous avons failli le jouer à pierre feuille ciseaux, mais finalement, j'accepte le challenge Rico, en me disant que cela peut être une aventure que l'on aimera se souvenir, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ainsi va le voyage.
Le cadre quand on arrive est pas mal du tout. 2 piscinettes d'eau chaude aménagées au-dessus de la rivière qui passe dans le canyon. La température est idéale, on s'y prélasse, sentant nos muscles engourdis se détendre sous l'effet de la chaleur.
39 degrés, c'est la température de l'eau dans laquelle nous nous glissons délicieusement. Lorsque nous nous retirons, les Canadiens avec qui nous avons discuté nous prennent pour des fous quand nous leur disons que nous repartons marcher. Évidemment, toute personne normalement constituée serait restée. Eh bien, pas nous. On se fait confirmer par Virginia qu'il y a bien un endroit pour dormir au village de Malata, notre objectif à 3 heures de marche plus loin. Vu l'heure, nous savons que nous allons finir le chemin probablement de nuit, à la frontale. Cela rajoute un peu de piment, un peu d'étincelle. Et pour ce qui est de l'adrénaline, elle monte dès le début du chemin.
Au début du sentier, tout va bien. Quand tout à coup, en fait, je fais demi-tour en une nanoseconde revenant vers Rémi qui marchait derrière moi. Je pense qu'il n'a pas dû saisir pourquoi je retournais vers lui comme une furie. D'ailleurs, je ne fais pas de phrase à ce moment-là. Juste des mots pour lui expliquer. « Là, un serpent, au milieu de la route. Au bordel, un serpent !» Il s'avance et le voit aussi, au milieu du chemin, immobile, noir, fin et long d'un bon mètre. Alors, comme on se dit que les serpents ressentent les vibrations, on se met à taper des pieds pour lui signifier « Attention, les humains arrivent !» Or, il ne bronche pas, rien n'y fait. Du coup, je dis à Rémi que je ne bougerai pas non plus, car il est hors de question que je m'en approche. On décide alors d'attendre quelques minutes, et on le voit enfin se faufiler élégamment dans les rochers sur la gauche. Au final, on ne sait pas qui aura eu le plus peur. Lui, qui s'est peut-être dit « si je bouge pas, il me voit pas », ou nous.
Précisons tout de même que, normalement, celui qui a la phobie des serpents, c'est moi. Mais devant le visage de Charlotte, j'ai fait le mec qui était serein. Et puis, du coup, c'est passé. Nous poursuivons notre route sur une longue piste qui monte par d'interminables lacets, tandis que le soleil décline doucement mais sûrement. Je repère alors un raccourci sur ma semi. Je m'y engage mais la sente est trop raide et je fais dégringoler des pierres sur Charlotte restée en bas. J'abandonne en marmonnant que cela nous aurait permis de gagner facile 30 minutes de marche.
Après l'épisode du serpent, nous reprenons la marche. C'est long, ça monte, il fait chaud mais j'ai bon espoir. Jusqu'à ce que Rémi indique le raccourci qu'il faudrait prendre. Il s'y lance en premier. C'est très raide. J'attends, puis finis par le suivre sans conviction aucune. Et surtout, je me dis direct que pour moi, ça va pas le faire parce que ça se rapproche de l'escalade. Du coup, j'appelle Rémi et je lui dis que j'ai pas envie de me farcir cette route pour les beaux yeux de Mapsmi. Il me répond ok. Et là, d'un coup, il y a des pierres qui commencent à me tomber dessus. Je lui gueule « Bordel, mais putain, je me reçois plein de pierres là, laisse-moi descendre et je te dis quand je suis hors de portée. » Donc, je redescends tranquillement, on se remet en route, le moral dans les chaussettes.
Il faut continuer sur la piste qui longe un village, où franchement, j'espère secrètement que quelqu'un va venir nous proposer un hébergement. Mais non, nous continuons à monter tandis que la nuit fait son apparition. S'installe un petit moment de « mais qu'est-ce qu'on fout là ?»
Je sens bien que l'échec du raccourci de Masmi agace Rémi. Mais bon merde, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà. J'essaie de montrer le bon côté des choses. Genre, waouh, regarde, le coucher de soleil est superbe. Bon, ça prend pas trop. Du coup, je demande à Rémi, mais pourquoi pourquoi t'as accepté ma proposition de marcher au lieu de rester tranquillement aux sources, puisque c'était l'option qu'il privilégiait? Il me répond, pour le challenge. En tout cas, là c'est sûr, on l'a notre challenge.
On est à deux doigts de descendre dans l'oasis de Sangal, option plus simple pour remonter demain. Mais nous voulons aller au bout des choses, et le village de Malata ne semble plus très loin. Oh oui, regarde, on aperçoit les lumières. Cela nous donne du baume au cœur pour finir, malgré la fatigue, malgré l'obscurité désormais totale. Bon, reste quand même à trouver un endroit pour dormir.
On arrive dans un village fantôme, il n'y a qu'une seule maison qui est éclairée, mais heureusement, c'est la petite auberge qui avait été recommandée par Virginia, la mamita des sources d'eau chaude. Et justement, en parlant de chaleur, on ne peut prendre, au final de cette journée éprouvante, une douche chaude.
Oh, le rêve!
Bon, installé dans des WC extérieurs qui n'ont pas été lavés depuis 100 ans.
Et on peut pas tout avoir.
Puis on finit par passer à table devant un épisode du Plus belle la vie turque sous-titré en péruvien.
Nous repartons avec un train le lendemain matin. Il fait beau, mais pas encore trop chaud. Le sentier descend de nouveau jusqu'en bas du canyon, enlongeant un ruisseau dans une partie ombragée, ce qui nous va à merveille. Car oui, se profile à l'horizon la remontée de la mort, avec plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Ah, et d'ailleurs, bah, toujours pas de garde à l'horizon. Mais putain, bordel, on va te contrôler, nous! Juste avant d'entamer la montée, nous tombons sur une Française que nous avions rencontrée à l'auberge d'Arequipa. Elle vient de descendre et nous dit que c'est surtout le début de la montée qui est très raide.
Raide? Mais c'est une blague. Raide est un pléonasme, c'est un mur qui se dresse devant nous. Et bien sûr, il fait 48 000 degrés. Imaginez que vous êtes une fourmi dans un four. À ce moment-là, Rémi me distance rapidement. D'ailleurs, je me dis que si je faisais un malaise, il ne le verrait même pas. Et pour couronner le tout, c'est infesté de guêpes. Non, vraiment une rando idyllique.
J'aperçois derrière moi que Charlotte ne suit pas du tout le rite. Je crois bien qu'elle est en PLS. Mais bon, je la garde de visu parce que j'ai l'expérience.
Quand je rejoins Rémi, je lui dis « Putain, mais c'est de l'inconscience qu'on fait. On aurait dû se lever plus tôt, il fait trop chaud pour randonner, encore plus chaud pour affronter le mur. Si ton père le savait, il désapprouverait. » Oui, ça c'est la petite pique pour faire réagir Rémi, qui admet que tout de même, ce n'est définitivement pas le bon moment pour monter. Cependant, grand prince, il se met derrière moi pour me soutenir.
Oui, précisons tout de même que c'est Charlotte qui voulait faire la grasse mat, et pas partir plus tôt. Mais bon, je reconnais que cette montée est vraiment abominable.
Et comme pour bien nous narguer, il y a des dizaines d'autres randonneurs qui marchent, mais en sens inverse. Et certains nous gratifient d'une vanne. Mais vous allez dans le mauvais sens. J'aimerais tellement rigoler à ta blague si seulement je pouvais respirer en fait.
À force de faire les choses pas comme les autres, voilà dans quelle situation on se retrouve. Pour Charlotte, je crois qu'elle est catastrophique.
Aux deux tiers du chemin, je m'effondre, littéralement. Je m'assois par terre et je pleure. En fait, je n'en peux plus, mes muscles lâchent, mon mental aussi, je n'y arrive plus du tout. Ça fait des heures que je traîne des pieds. Je meurs de chaud, c'est la pire montée de toute ma vie. Et en plus, je sens que Rémi est presque agacé de mon comportement, mais là, je peux rien faire, c'est au-dessus de mes forces.
J'avoue que quand j'ai vu Charlotte s'écrouler par terre en pleurant, là, je me suis vraiment dit comment on va s'en sortir. Heureusement pour elle, elle a trouvé l'énergie du désespoir pour reprendre le chemin. La voilà même qui commence à me distancer. En fait, Charlotte est la définition même des montagnes russes.
Et là, quand je suis par terre, c'est le déclic. En fait, je suis pas dans un rêve, il va pas y avoir un hélico pour venir me secourir, je ne peux compter que sur moi. Du coup, je me lève et décide de me mettre en mode turbo. En fait, c'est ça ou rien. Donc je double Rémi, sans maudire, et trace comme une fusée. Je ne sens plus mes jambes du tout, je suis en pilote automatique. Et dans ma tête, je m'auto-encourage, ce qui donne à peu près cette chose ridicule mais efficace. Allez tout le monde, allez les muscles, on y va, on lâche rien, on est tous ensemble, on y va, allez, on va monter. Oui voilà, c'est tout à fait ridicule, mais à cet instant, mon muscle le plus puissant, c'est mon cerveau. Je suis sous mes propres ordres et ça finit par marcher. Marcher, marcher.
Le dernier kilomètre semble ne jamais finir. Et nous sommes comme des zombies lorsque nous arrivons enfin sur la place centrale de Cabana Conde. Il est temps de faire le bilan, calmement. Nous sommes fiers de nous. Mais dans le même temps, nous nous disons « plus jamais ça ». C'est vrai que la dernière montée n'aura été que souffrance. Bon, surtout pour Charlotte, moi j'ai plutôt géré. Mais c'est vrai que nous avons un peu présumé de notre capacité à enchaîner les kilomètres.
Ah oui, et dernier truc bien sûr, nous n'avons jamais rencontré le moindre garde durant tout le trajet. Et donc on n'a jamais été contrôlés.
Voilà, cette histoire de montagne russe à Kolka est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager, aimer la page Facebook et surtout vous y abonner.
Abonne-toi à Bouge de là.